Bonjour et bienvenue à l'émission du jeudi 19 octobre 2017. Très belle journée, fait doux à l'extérieur. J'espère que vous allez bien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et qui vous souhaite un agréable moment à l'émission Les Voix de service quotidien. Et c'est Mathieu Tessier qui est là. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Avez-vous préparé votre chronique
éphéméride? Tout à fait. Voilà. Et j'aimerais commencer par une citation. « Jamais encore la vérité ne s'est accrochée au bras d'un intransigeant. »
Jamais
encore la vérité, il n'y a pas de virgule, j'allais faire comme une dictée, « ne s'est accrochée au bras d'un intransigeant. »
On va...
Ainsi parlait Zarathoustra.
Ah, oh, on va réfléchir
Nietzsche.
Là-dessus. Ah, ben alors,
oui.
C'est dans l'œuvre de Friedrich Nietzsche.
Voilà. 1216, le roi d'Angleterre, Jean d'Angleterre, meurt après avoir mangé de son propre aveu un peu trop de pêche et bu trop de bière.
Il a pêché par excès.
Il a pêché par la bière. Et la bière. 1783, premier vol humain en montgolfière. Nous avons légèrement jusqu'en 1957, où Maurice Richard du Canadien de Montréal est le premier hockeyeur à marquer un 500e but en carrière contre le gardien Glenn Hall de Chicago.
On aurait besoin de lui.
C'est
de
vrai?
De ces temps-ci,
ah
c'était
ouais, ça...
6 matchs que les Canadiens perdent.
Et les...
Consécutivement.
Et... C'est vrai? Diantre.
Ben, vous n'êtes pas au courant.
Non, non, mais maintenant, oui. Merci. En 1960, les États-Unis mettent sous embargo Cuba, sauf pour les fournitures médicales et certains produits alimentaires. En 1970, la police découvre une cachette du FLQ sur la rive sud de Montréal, mais la maison est inoccupée. En 1970, toujours, British Petroleum trouve le premier gisement important en mer du Nord. Les premières élections libres en Haïti en 29 ans se passent en 1986. En 1987, le crash d'octobre 87, la Dow Jones perd 22% de sa valeur. Plus grosse crise depuis 1929. On l'a d'ailleurs appelé le lundi noir. Un autre lundi noir, mais cette fois pour les Expos, en 1981. Les Expos de Montréal, durant la série de championnats de la Ligue nationale de baseball, entre les Expos de Montréal et les Dodgers de Los Angeles, pour accéder donc à la série, un circuit de Rick Monday des Dodgers élimine les Expos. Je me souviens d'avoir entendu la ville pleurer à ce moment.
Êtes-vous plus un amateur de baseball que de hockey?
Non.
Non.
Je suis un peu plus amateur de hockey. Que de baseball.
Ah oui?
Oui. Voilà.
C'est dit, c'est sûr.
C'est dit, voilà, merci, c'est enregistré. 1992, le Parlement sud-africain adopte la loi permettant l'entrée des Noirs au gouvernement. En 99, la Cour d'appel fédérale juge qu'Ottawa doit payer quelque 5 milliards à environ 200 000 fonctionnaires, surtout des femmes, au titre de l'équité salariale. Jean-Paul II béatifie la fondatrice des missionnaires de la charité, donc Mère Teresa, en 2003. En 2005, c'est l'ouverture du procès de Saddam Hussein à Bagdad pour le massacre de Doudjail, ville chiite où 150 personnes furent tuées en 1982. 2008, le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, reçoit un doctorat honoris causa de l'Université Laval. En 2010, le projet de loi sur les écoles passerelles est adopté à l'Assemblée nationale à Québec et les Canadiens se donnent un gouvernement libéral majoritaire dirigé par Justin Trudeau. En 2015, pour ce qui est des naissances, nous avons John le Carré, né David Cornwell en 1931. Et pour ce qui est des décès, nous avons Willie Lamotte qui nous a quittés en 92, un 19 octobre, et aussi le romancier anglais Jonathan Swift. Qui était né, lui, en 1667 et nous a quittés en 1745.
25 ans déjà que Willie Lamotte est
C'est
parti.
Fou, hein?
Mille après mille. Est-ce que ça vous dit quelque chose,
ben
cette
oui,
chanson?
Oui, je vais la faire jouer.
Ah oui,
ben
bonne
oui.
Idée. Merci. À la une de la presse, une autre bombe médiatique. Roson démissionne dans la tourmente, visée par des allégations d'agression sexuelle et de harcèlement de la part de 9 femmes. Gilbert Roson quitte notamment ses fonctions de président du groupe Juste pour rire et de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Hier, le SPVM a ouvert une enquête à la suite d'une plainte. La chronique de Patrick Lagacé s'intitule « 100 mots-clics, moi aussi, point de suspension ». Affaire Éric Salvaille, chute brutale pour le roi de V, la chronique d'Hugo Dumas. Et section Affaires, la presse à Seattle, faut-il rêver à Amazon, un reportage de Marie-Claude Lortie. Alors, la chronique de Patrick Lagacé, sans mot-clics, moi aussi, point de suspension, il y a des gens qui se demandaient à quoi ça pouvait bien servir que des victimes d'agresseurs sexuels de tripoteux aux mains longues et autres mononcles gluants s'expriment sous le mot-clic, moi aussi. Après tout, à quoi ça sert un mot-clic? À rien, la plupart du temps. Mais des fois, l'inertie du monde est chamboulée. Des fois, le virtuel s'immisce dans le réel. C'est ce qui est arrivé ces derniers jours, ces dernières heures. Sous le parapluie du mot-clic « moi aussi », les victimes ont dit leur vérité. Elles et ils, des fois, ont dit où, quand, comment, leur âge, au moment des faits, combien de fois. Il y a donc des gens qui se demandaient à quoi ça pouvait bien servir « moi aussi » et « MeToo ». Or, sans « moi aussi », c'est sûr, Salvaille et Roson seraient aujourd'hui fidèles au poste à dérider la galerie. Sans « moi aussi », c'est sûr, les 11 sources de Katia Gagnon et de Stéphanie Vallet ne se seraient pas confiées à la presse au sujet du comportement dégueulasse d'Éric Salvaille dans la sphère privée. Sans « moi aussi », c'est sûr, les femmes qui ont raconté au Devoir et au 98.5 FM les agressions et tripotages qu'elles disent avoir subis aux mains de Gilbert Roson ne seraient pas sorties sur la place publique. Il y a de cela très longtemps, je me suis ramassée en Afrique, dans la savane. La guide nous avait expliqué pourquoi les buffles et les zèbres et autres proies des lions se tenaient en bande. There is safety in numbers, avait-elle expliqué. Il n'y a pas de sécurité qu'en groupe. Le buffle, seul, n'a aucune chance contre les lions, parfois même contre un seul lion. Mais à 20, à 30, à 50, le groupe peut faire front, se défendre, repousser les prédateurs, les terrasser même. Moi aussi a permis de créer un groupe virtuel pour ses victimes. Et quand ces personnes ont parlé, que ce soit à la presse, au Devoir ou au 98.5, elles l'ont fait en groupe. Ce n'est pas un hasard. There's safety in numbers. Hier, toute la journée, des gens ont dit « tout le monde savait » à propos des comportements d'Éric Salvaille et de Gilbert Roson. Pardon, je ne savais pas, moi. Je savais qu'Éric Salvaille était libidineux, porté sur les jokes de cul, aussi salaces que malaisantes. Mais je ne savais pas pour ces histoires sordides sorties par la presse hier. Je ne savais pas qu'il se sortait le pénis dans des meetings de production. Désolée. Je pensais que personne ne faisait ça, pas même les urologues en congrès. Si tout le monde savait, pourquoi ce n'est jamais sorti avant? Parce que c'est dur de parler de comportements semblables. On peut se sentir mal, honteuse, intimidée, sale quand on les a vus, subis, ces comportements. Il y a 3 ans, Katia Gagnon avait fait des appels dans la foulée du mouvement « Agression non dénoncée » qui s'était formé autour de l'affaire Gian Gomeshi, lui aussi ciblé par des histoires d'inconduite sexuelle à Toronto. Katia avait approché des gens qui, croyait-elle, pouvaient peut-être témoigner des comportements privés d'Éric Salvaille. Elle avait voulu vérifier des bruits et personne n'avait voulu parler. C'est dur de parler. On se sent isolé. 3 années ont passé. Aux États-Unis, récemment, l'affaire Harvey Weinstein a éclaté grâce au New York Times et au New Yorker, révélant que le célèbre producteur hollywoodien avait harcelé et agressé des femmes depuis des années aux États-Unis et en Europe. Des victimes d'agressions sexuelles ont utilisé le mot-clic « MeToo » pour témoigner des Weinstein de ce monde, célèbre ou non. Au Québec, « MeToo » est devenu « moi aussi ». Des tas de femmes, et entre parenthèses, et des hommes, ont témoigné de la réalité des agressions et des pressions sexuelles qu'elles avaient subies. Elles et ils ont raconté où, quand, comment, combien de fois. et Katia a rouvert le dossier Salvaille, fermé 3 ans plus tôt. Cette fois, elle n'a eu aucune difficulté à trouver des témoins, des victimes des gestes et des paroles dégueulasses de Salvaille. Stéphanie Vallet a elle aussi convaincu des gens de parler. À la fin, ils étaient 11 à témoigner, à raconter des faits concordants. Moi aussi avais libéré une parole. Stéphanie et Katia ont fait du journalisme, comme Amélie Pineda au Devoir, comme Monique Néron et Émilie Perrault au 98.5. Fouiller pour exhumer des informations, convaincre des gens de livrer des témoignages, vérifier, contre-vérifier, valider, peser les mots au moment de préparer les reportages. Et ça a donné les bombes d'hier, bombes qui ont déboulonné les statues de Roson et de Salvaille. Parce que des gens ont décidé de parler. Plein de gens ont donc dit « tout le monde savait ». Moi, en lisant les témoignages de victimes d'agressions sexuelles sous le parapluie de « moi aussi », je me suis rappelé plein de gens qui, ces derniers mois, ces dernières années, refusaient catégoriquement d'accepter qu'une culture du viol puisse exister. Alors, je poursuis. Ma tablette avait figé. Ma tablette aussi était traumatisée. Alors, je continue. Plein de gens ont donc dit « tout le monde savait ». Moi, en lisant les témoignages de victimes d'agressions sexuelles sous le parapluie de « moi aussi », je me suis rappelé plein de gens qui, ces derniers mois, ces dernières années, refusaient catégoriquement d'accepter qu'une culture du viol puisse exister. Culture du viol, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des violeurs. Ça veut dire qu'il y a encore trop de victimes d'agressions sexuelles, que c'est encore trop répandu, courant, sous bien des formes. Les derniers jours, les dernières heures nous le rappellent encore. C'est donc la chronique du jour de Patrick Lagacé, sans le mot-clic « moi aussi », point de suspension. Procès de Randy Chilumba, Clémence était comme un soleil, de Louis-Samuel Perron. Vivre sans Clémence, je ne sais pas encore comment on va faire, lâche Nathalie Beaulieu en proie à une vive émotion. Pour les parents de Clémence Beaulieu-Patry, le procès de Randy Chilumba, celui qui a tué leur fille, a été plus qu'éprouvant. Un long supplice d'un mois qui les a confinés au silence. Ça a été un cauchemar, on est épuisés, pas juste physiquement, mais émotivement. Je vois Clémence tout le temps dans ma tête, confie Nathalie Beaulieu. Alors que le jury amorce son 3e jour de délibération, les parents de Clémence redoutent que le bourreau de leur soleil évite la prison. « je vais pleurer », souffle Nathalie Beaulieu, effrayée par un possible verdict de non-responsabilité criminelle. La mère de la jeune femme de 20 ans, dont la vie a été fauchée par Randy Chilumba le 10 avril 2016 dans un supermarché Maxi, en avait long à dire sur les deux psychiatres de la Défense, la docteure France Proulx et le docteur Louis Morissette. Ce dernier, acquitté de parjure en 2011 et témoin de la défense au second procès de Guy Turcotte, a diagnostiqué à l'accusé un trouble délirant. Ils se prennent pour Dieu le Père. Ils ont vu l'accusé 4 heures ou 3 heures, 15 mois après le meurtre, et peuvent venir nous dire qu'il n'est pas responsable. Ça, il faut que ça change, dit Nathalie Beaulieu. Moins de 24 heures après son adoption finale au Sénat, le projet de loi S-231 sur la protection des sources journalistiques a reçu la sanction royale du bureau de la nouvelle gouverneure générale, Julie Payette, hier après-midi. La loi, qui est entrée en vigueur à minuit, avait été réclamée par les médias dans la foulée des révélations selon lesquelles le service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont mené des opérations de surveillance aux dépens de plusieurs journalistes au Québec. Le projet de loi S-231 modifie la loi sur la preuve au Canada en donnant le droit à un journaliste de s'opposer à la divulgation d'un renseignement ou d'un document auprès d'un tribunal pour protéger une source journalistique qui risquerait ainsi d'être révélée. Il renverse aussi le fardeau de la preuve puisqu'il reviendra dorénavant aux autorités policières de convaincre un juge de la Cour supérieure et non plus un juge de paix, d'accorder des mandats de perquisition concernant un journaliste.
Pourquoi tu fermes les yeux au moment de l'explosion? C'est tellement beau, la destruction. Pourquoi tu fermes les yeux? Je voudrais te raconter une histoire d'avant nous deux, avant que se croisent nos trajectoires. Il était une fois une maison qui s'endort et un garçon qui s'enfuit. Son cœur éclate sans faire de bruit. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Pourquoi tu fermes les yeux quand les corps vont au plancher? C'est juste un jeu de gravité. Viens regarder avec moi les étoiles tomber. Tu fermes les yeux quand tu me dis que tu m'aimes.
Philippe B et sa chanson Explosion.
À la une du Devoir de ce jeudi 19 octobre 2017, une photo de Gilbert Rozon. Mercredi dans la soirée, Gilbert Rozon a annoncé sur Facebook qu'il se retirait de ses diverses fonctions. Allégations de nature sexuelle, Rozon visé par 9 femmes. David Heurtel veut parler d'emploi au lieu de racisme. Le gouvernement Couillard procède à un recadrage du mandat de la consultation sur le racisme systémique. Le paradoxe des bouddhistes myanmarais. Les moines tueurs sont en contradiction avec leur religion, dit Mathieu Ricard. Une photo de Mathieu Ricard qui est en ville, moine et interprète du Dalai Lama. Ricard ne condamne pas d'emblée le long silence d'Aung San Suu Kyi face au sort réservé aux Rohingya. Xi Jinping défend l'autorité du PCC. Le président promet une nouvelle ère à la Chine. Économie, la Caisse veut investir plus vert. Neutralité religieuse, statu quo à Montréal. Les hommages fusent pour Gord Downey, le chanteur du groupe de Tragically Hip. Neuf femmes racontent au Devoir ainsi qu'au 98.5 FM avoir été victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles de la part du fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon, et ce, dans la foulée du mouvement MeToo, moi aussi en français. Les plus récentes remontent à l'été 2016. Geneviève Allard, une entrepreneur qui a rencontré l'homme d'affaires dans le cadre de l'émission télévisée Les Dragons, a porté plainte auprès de la police en décembre. Une rencontre a eu lieu à son domicile le 19 juin 2016. À la fin du printemps 2016, elle a échangé des courriels avec M. Rozon, qui s'est notamment présenté au lancement de son entreprise, et la rencontre a eu lieu peu après. Il me demande où je suis, je lui dis à la maison. Il m'a demandé si j'étais toute seule, je lui ai dit oui. Il m'a demandé si j'avais du vin, j'ai dit non, mais j'ai du champagne, je lui donne mon adresse et il s'en vient. Elle raconte avoir accueilli Gilbert Rozon sur son balcon et ne pas l'avoir fait rentrer chez elle. Il discute de la nouvelle copine de M. Rozon. Il explique qu'il aime être mentor pour les jeunes. Elle relate lui avoir proposé d'aller dans un restaurant car elle n'avait pas mangé et avait seulement bu du champagne. Au restaurant, ils boivent encore. Il l'aurait reconduite ensuite chez elle et pendant qu'elle rentrait, il serait lui aussi entré et se serait écroulé sur le lit. Elle dit s'être endormie à côté de lui et s'être réveillée en se rendant compte qu'il était en train de la pénétrer. Marlène Bolduc a aussi raconté avoir été harcelée sexuellement par Gilbert Rozon alors qu'elle travaillait au festival Juste pour rire en juillet 2016. La réalisatrice Lynn Charlebois, connue pour son film Borderline, était dans la vingtaine lorsqu'elle a rencontré celui qui deviendrait le grand Manitou de Juste pour rire en 1982. Un soir, Gilbert Rozon aurait soupé avec Mme Charlebois et son conjoint qui venait de préparer un pâté chinois. Il a mangé avec nous, il a eu bien du fun avec mon chum et ensuite on est parti pour aller discuter au bar. En chemin, il m'a dit qu'il n'habitait pas loin, qu'il voulait aller changer sa chemise parce qu'il l'avait portée toute la journée. Je n'ai eu aucune crainte, je suis rentrée chez lui, raconte-t-elle. Sa chemise, Gilbert Rozon ne l'aurait jamais enlevée. Il a fumé un joint, je pense que j'en ai pris une pof. Il devait être comme 19h30, on n'avait pas bu de vin, on n'était pas du tout intoxiqué. Et écoutez, la première chose que j'ai su, c'est qu'on était dans sa chambre. Il était sur moi et j'ai fait la planche. Dans ma tête, le gars que je venais de rencontrer était en train de me pénétrer. Il avait rencontré mon chum, raconte-t-elle. Plusieurs des femmes rencontrées par Le Devoir et le 98.5 confient avoir cru en 1998 que les langues se déliraient lorsque Gilbert Rozon appelait des coupables d'avoir commis des gestes de nature d'agression sexuelle. Il avait agressé une croupière lors d'une soirée au manoir Rouville-Campbell. Il a obtenu l'année suivante une absolution inconditionnelle. Sophie Moreau, la fille de l'humoriste Jean-Guy Moreau, qui était un ami de Gilbert Rozon, dit avoir été victime de harcèlement verbal lorsqu'elle avait 15 ans. Salomé Corbeau affirme avoir également été victime des inconduites sexuelles de Gilbert Rozon en 90, alors qu'elle avait 14 ans. En 98, alors qu'elle était chroniqueuse à Salut Bonjour, l'animatrice Pénélope McQuaid couvrait le festival Juste pour rire. On était au musée Juste pour rire, qui était le QG du festival, le quartier général. Je n'avais pas bu parce que je travaillais à 4 heures. Je suis allée à la salle de bain, c'était une toilette privée. Tout de suite après moi, je sens quelqu'un qui rentre. Je vois la lumière se fermer et j'entends la porte se barrer. Et ce quelqu'un que j'ai aperçu était Gilbert Rozon, raconte-t-elle. Il s'est jeté sur moi. J'ai complètement figé. Lui aussi, d'ailleurs. Je me rappelle mes phrases qui résonnaient dans mon oreille. Gilbert, non. Gilbert, non. Ça s'est pas rendu plus loin. J'ai réussi à ressortir et j'ai dit à ma fréquentation qu'on devait partir, se souvient-elle. Sébastien Proulx change son fusil d'épaule. Après maints débats et critiques de la part de l'opposition, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, fait marche arrière et accepte d'assujettir à la loi 101 les enfants qui sont scolarisés à la maison. En commission parlementaire mardi, le ministre a changé son fusil d'épaule et trouvé une solution aux problèmes soulevés par ses collègues lors de la dernière séance de travail sur le projet de loi 144 visant notamment à encadrer l'école à la maison. Comme le rapportait Le Devoir, le ministre voulait permettre aux parents qui font l'école à la maison d'aller chercher des services d'accompagnement et de suivi auprès de la commission scolaire de leur choix, en anglais ou en français, sans égard aux dispositions de la loi 101. Le ministre répétait que la loi 101 ne s'applique pas à l'école à la maison puisque les services d'accompagnement et de suivi ne sont pas des services éducatifs donnés en classe ou dans un établissement scolaire. À l'unisson, les trois partis d'opposition rétorquaient qu'il s'agissait d'une façon de contourner la loi ou à tout le moins d'une brèche à l'esprit de la loi 101. 10 jours plus tard, le ministre s'est rendu aux arguments de ses collègues et propose un nouveau scénario pour éviter de soulever ce qui était en apparence et non en pratique une brèche à l'esprit de la loi 101. Il a donc retiré l'amendement contesté pour le remplacer par un nouvel amendement toujours à l'étude. Une nouvelle étude confirme ce que de nombreux pompiers soupçonnent depuis longtemps. Des niveaux élevés de substances toxiques s'accumulent dans leur corps en raison de l'exposition soutenue aux flammes et à la fumée. Des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont ainsi trouvé que cette concentration élevée de produits chimiques peut causer le cancer et des dommages génétiques. Jules Blais, auteur de l'article publié dans la revue Environmental Science and Technology, souligne qu'aucune étude n'avait jusque-là dressé un portrait aussi complet de la situation. M. Blais a travaillé avec un groupe de pompiers d'Ottawa prélevant des échantillons d'urine et de peau avant et après que les pompiers eurent été appelés sur les lieux d'un incendie. Ces deux types d'échantillons ont témoigné des niveaux élevés d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, communément appelés HAP, qui proviennent de matières de plastique brûlées. Les HAP peuvent causer des dommages aux cellules ainsi que des mutations génétiques. Bien que les HAP demeurent dans le sang pendant quelques jours seulement, Jules Blais estime que cela est suffisant pour avoir un effet. C'est lorsque le corps tente de gérer ces toxines que les dommages sont causés. Malgré la controverse entourant la première édition de la course de Formule 1 électrique qui s'est tenue à Montréal cet été, Québec vient d'accorder 1 million de dollars à l'organisme sans but lucratif qui a présenté l'événement Montréal c'est électrique. Le décret accordant une subvention d'un million figurait dans la Gazette officielle du Québec publiée mardi. Ce décret adopté le 27 septembre dernier autorise le ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, à accorder cette subvention à Montréal c'est électrique. Ce montant s'ajoute aux 500 000 déjà octroyés par Québec à l'organisme, a précisé l'attaché de presse du ministre Coiteux, Marie-Ève Pelletier. Il s'agit d'un montant destiné au démarrage de projets pour la première édition de la course de voitures électriques tenue en juillet dernier. La demande de subvention remontait à 2016.
Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Ben, mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Puis je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Ben, mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi, j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Ben, mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.
Alors, chose promise, chose due, Fred Pellerin qui nous chantait cette merveilleuse chanson « Mille après mille ».
En une du Journal de Montréal d'aujourd'hui, deux hommes, allégations d'inconduite sexuelle. À gauche, Éric Salvaille, les diffuseurs et les annonceurs l'abandonnent. Le monde de Salvaille s'écroule et à droite, la police déclenche une enquête. Roson annonce sa démission. Des chroniques, le vent tourne, Richard Martineau. Ce n'est que le début, Sophie Durocher. On les croyait intouchables, José Legault et combien d'autres encore, Guy Fournier. La police de Montréal a ouvert une enquête à la suite d'une plainte d'agression sexuelle déposée hier après-midi contre le producteur Gilbert Roson concernant des événements qui seraient survenus à Paris en 1994. La plaignante fait partie d'un groupe d'une dizaine de femmes qui s'est réuni mardi à Montréal afin de discuter de gestes déplacés dont elles auraient été victimes de la part du fondateur de Juste pour rire. En soirée hier, l'homme de 62 ans a annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions de président du groupe Juste pour rire, qu'il occupait depuis près de 35 ans. Joint en soirée, le porte-parole de Juste pour rire, Jean-David Pelletier, a mentionné que M. Roson ne ferait pas plus de commentaires. Et personne de Juste pour rire ne fera de commentaires pour l'instant. L'intérim n'est pas décidé. Nous allons bien analyser l'ensemble des allégations demain, aujourd'hui, et prendre une décision pour la suite des choses. Alors, je reprends, nous allons bien analyser l'ensemble des allégations demain, mais il parlait d'aujourd'hui, et prendre une décision pour la suite des choses. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a déclaré de son côté être déçu des graves allégations d'inconduite sexuelle qui pèsent sur Gilbert Roson. Je soutiens totalement toutes ces femmes et ces hommes qui décident de s'exprimer. L'aspirante mairesse Valérie Plante a indiqué souhaiter que toute la lumière soit faite sur les allégations à l'égard de l'homme d'affaires. Éric Salvaille perd ses émissions, son royaume s'effondre après les témoignages d'inconduite sexuelle. Éric Salvaille a perdu ses 24 dernières heures, toutes les émissions qu'il pilotait en raison d'allégations d'inconduite sexuelle. V a suspendu la diffusion d'En mode Salvaille pour une période indéterminée. L'entreprise Groupe V Media a aussi indiqué qu'elle évaluait sa relation d'affaires avec Salvaille et compagnie, la maison de production du gagnant de plusieurs prix Artis. Du côté des annonceurs, plusieurs ont délaissé le talk show, dont McDonald's, Metro et Transat. Quant à Rouge, la station de radio de Bell Media a remplacé son émission Éric et les Fantastiques. Comme pour Harvey Weinstein, ce bonze de Hollywood accusé de harcèlement et d'agression sexuelle envers plusieurs femmes, les témoignages recueillis dans l'affaire Salvaille se recoupent sur une chose : sa réputation le précédait. En entrevue au Journal de Montréal, une réalisatrice affirme avoir souvent observé l'animateur se livrer à des attouchements inadéquats. « Il pognait les fesses des gars régulièrement », précise-t-elle. Selon la réalisatrice, son comportement était un secret de polichinelle. Tu peux parler à 50 000 personnes et elles auraient toutes des anecdotes à raconter, poursuit-elle. Pardon. Certaines personnes refusent même de travailler pour Éric Salvaille à cause de tout ce qu'elles entendent. C'est le cas d'un réalisateur télé qui lançait des mises en garde à quiconque annonçait son intention de collaborer avec l'animateur. Un autre membre de l'Union des artistes nous a confié que personne n'est tombé des nues en prenant connaissance des allégations dans la presse plus mercredi matin. Pour leur part, les directions des différents réseaux plaident l'ignorance. La direction de Radio-Canada, qui diffuse Les Échangistes, un talk show estival produit par Salvaille Echo, n'a reçu aucune plainte non plus. Le cas échéant, elles auraient été traitées avec le plus grand sérieux, conformément à nos politiques, soutient la Société d'État. Une source nous apprend toutefois qu'en septembre dernier à Rouge, un collègue d'Éric Salvaille aurait averti les ressources humaines de Bell Media que l'animateur aurait posé un geste déplacé envers un autre employé du réseau. Bell n'a pas rendu nos appels. Qui est le prochain? C'est la chronique de Sophie Durocher. Il y a 13 ans, Guy Cloutier, hier, Éric Salvaille, aujourd'hui, Gilbert Rozon. Demain, qui sera au centre d'une controverse pointée du doigt pour des gestes sexuels déplacés? Un homme, une femme, à Montréal, à Québec, dans la chanson « Les médias ». La grande roue de la disgrâce tourne et on ne sait pas sur qui elle va s'arrêter. Les allégations contre Éric Salvaille et Gilbert Rozon sont graves, mais une chose est sûre, aucun barrage ne peut arrêter le tsunami de dénonciations déclenché par l'affaire Weinstein aux États-Unis. Aucune raison que le Québec soit épargné. On n'est pas plus vertueux que les autres. Et vous savez quoi? Ce n'est que le début. Au moment où l'on se parle, des journalistes, tous médias confondus, fouillent, scrutent, interrogent pour dévoiler la prochaine affaire. La mystérieuse disparition d'une mère de famille de Blainville continue de susciter de vives inquiétudes chez ses proches. Mère de deux adolescents, Lisa Dumais, 42 ans, a été vue pour la dernière fois il y a 5 jours. Dans une entrevue à TVA Nouvelles, son conjoint confie qu'il s'en veut de s'être endormi plus tôt qu'à l'habitude. Elle est dépressive et je n'étais pas là pour la protéger. Elle a déjà fait une tentative de suicide, a relaté Patrick Laframboise, qui dit s'être endormi devant la télévision jeudi soir dernier. À son réveil, quelques heures plus tard, il a constaté l'absence de sa femme. Lisa Dumais avait déjà quitté la maison dans le passé, mais pour de plus brèves périodes. Cette fois-ci, la mère de famille a disparu sans laisser de traces et en laissant derrière elle son téléphone cellulaire. Elle avait sur elle une sacoche en tissu beige. Aucune transaction n'a été effectuée dans son compte bancaire. Patrick Laframboise implore sa femme de se manifester. Il vole tout un guichet automatique. À Bois-des-Filions, un vol inusité s'est déroulé entre 23h et 1h dans la nuit de mardi à hier, alors qu'un guichet automatique installé dans l'entrée d'un marché d'alimentation situé sur la montée Gagnon dans les Basses-Laurentides a été dérobé. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Ce sont des employés d'entretien qui ont alerté le service de police intermunicipal Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filions. Pour le moment, nous n'avons aucune piste, aucune description des véhicules et aucun suspect, a mentionné Jean-Philippe Gagné, lieutenant du corps policier. La nouvelle ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, juge complètement inappropriée l'allusion au préservatif utilisé par son ami Alexandre Taillefer pour illustrer la prudence qui doit désormais régir les rapports entre ces entreprises et le ministère de Mme Melançon. une amie de longue date, l'homme d'affaires avait déclaré hier dans les pages du journal que c'est le genre de situation qui va faire qu'il va y avoir un condom, deux condoms, trois condoms. Hier, la ministre a soutenu que l'image l'a choquée. « J'étais très fâchée, je n'ai pas aimé ça du tout, puis il l'a su. » À ses yeux, le contexte marqué par le scandale Harvey Weinstein rendait l'image encore plus inacceptable. « Il y a des sujets sur lesquels on doit être prudent, et je l'invite à la prudence », a-t-elle insisté en parlant de M. Taillefer. C'était complètement inapproprié. Au reste, Mme Melançon a certifié que son amitié avec M. Taillefer ne se traduirait pas par aucun passe-droit, Oui, c'est un ami, mais il n'aura jamais de traitement de faveur. Je vais appliquer à son endroit la même rigueur que pour tous les autres qui vont venir vers mon ministère. La coalition Avenir Québec a invité Mme Melançon à la prudence quant à une apparence d'accès privilégié. J'invite la ministre à aller lire la définition de conflit d'intérêts, a lancé la députée Nathalie Roy.
Dans une banlieue de Montréal où un certain Raymond feuillette tranquillement son journal. L'horoscope optimiste lui prédit un jour de chance et notre vieil enfant est prêt à retrousser ses manches. Depuis son expropriation par la femme de sa vie, faut dire qu'à 35 ans, un oiseau doit quitter le nid. Le pauvre homme n'a jamais gardé un seul emploi. Au bout de deux semaines, on le remercie à chaque endroit. Que faire quand on n'a que des pouces sur les mains? Quoi dire quand chaque mot nous donne l'air crétin? C'est pas de mauvaise volonté, mais dans notre société, c'est dur, dur d'être bon. Raymond est testeur de matelas et s'est mérité plusieurs fois le titre d'employé du mois. Il ne s'est plus jamais remis les pieds dans les plats. Là où il marche maintenant, il ne peut briser quoi que ce soit. Que faire quand on n'a que des pouces sur les mains? Quoi dire quand chaque mot nous donne l'air crétin?
Paru sur son album Petit bout de femme en 2015, c'était Andy Saint-Louis qui nous chantait la chanson Raymond.
L'avis du nutritionniste, c'est dans la presse section pause. Bernard Lavallée, nutritionniste, collaboration spéciale. Non, votre corps ne fait pas la différence entre le sucre de canne biologique et le simple sucre. Son article s'intitule « Sous le déguisement des bonbons santé ». Dans un peu moins de deux semaines, des milliers d'enfants déambuleront dans les rues pour amasser une collection impressionnante de gomme à mâcher, de jujubes, de caramel, de chocolat et d'autres friandises. Or, même si cette tradition annuelle fait partie de notre culture depuis longtemps, Les préoccupations des consommateurs à l'égard de la nutrition et de la santé, elles, se sont amplifiées. On trouve désormais des sucreries qui semblent plus avantageuses que d'autres. Mais le sont-elles réellement? De meilleurs bonbons, point de suspension, vraiment, point d'exclamation? Ou point d'interrogation, plutôt? Bon, ce ne sera une surprise pour personne. Les bonbons ne sont pas des aliments nutritifs. Ils représentent généralement une source assez concentrée de sucre, de colorants, de saveurs artificielles et parfois même de gras. Mais avant que les petits récoltent leur butin, c'est sur les adultes que tombe la responsabilité de remplir les coffres. Plusieurs aimeraient ainsi distribuer de meilleures options. L'industrie agroalimentaire l'a compris et elle s'est dotée de friandises à l'allure santé pour tirer quelques dollars supplémentaires des poches des parents et des voisins bienveillants. Ne soyez pas dupes, derrière ces costumes se cachent grosso modo les mêmes bons vieux bonbons. Je suis allée faire le tour de quelques supermarchés et pharmacies pour voir quelles étaient les tendances du moment à la matière. Contrairement à d'autres segments de l'offre alimentaire, les mots-clés utilisés pour conférer une aura santé aux friandises n'ont pas beaucoup évolué dans les dernières années. Sans gluten, sans gras, sans OGM, sans édulcorants artificiels ou sans colorants artificiels font encore partie des termes qui maquillent les emballages. La stratégie ici est d'attirer l'attention sur ce qui ne se trouve pas dans le produit pour éviter qu'on s'attarde trop à ce qu'il contient. Les mots naturels et biologiques, eux, promettent de façon implicite des ingrédients de meilleure qualité. Mais la réalité, c'est que ces inscriptions n'ont aucune incidence sur la valeur nutritive des friandises. Non, votre corps ne fait pas la différence entre le sucre de canne biologique et le sucre simple. Plusieurs entreprises jouent aussi sur la présence de vrais fruits pour tenter de faire briller leurs produits. Par exemple, je suis tombée sur un sac de jujubes contenant des super fruits qui présentaient des images de baies, d'açaï, de bleuets et de canneberges. Pourtant, il suffit de regarder la liste des ingrédients pour réaliser que ces petits bonbons sont davantage constitués de sirop de maïs, de sucre et d'amidon modifiés que de fruits. Et encore, le jus, sous forme de jujubes, n'a rien à voir avec les fruits frais. Des bonbons, ça goûte bon. Non, malgré les promesses des emballages, les bonbons santé n'existent pas. Mais on s'en fout. La seule raison d'être des friandises, c'est de goûter bon. Au contraire, vous avez un plus gros problème quand les bonbons représentent une de vos sources importantes de nutriments essentiels. Comme la fête n'arrive qu'une fois par année, ce n'est pas grave de laisser les enfants en manger plus que d'habitude le soir ou même le lendemain. Puis, on range le trésor dans une armoire et les enfants peuvent en choisir quelques-uns au moment du dessert, s'ils le veulent. Notre obsession pour la nutrition, qui a réussi à se glisser à peu près partout, n'a clairement pas sa place au sein de cette célébration du sucre. L'alimentation, c'est beaucoup plus large que la santé. Elle se doit d'être une source de plaisir et elle est intimement liée à notre culture. Bien que ces trois notions ne soient pas mutuellement exclusives, elles ne vont pas toujours de pair non plus. Et s'il y a un événement qui le démontre bien, c'est l'Halloween. Bernard Lavallée, nutritionniste, collaboration spéciale dans la presse d'aujourd'hui. Citrouille turquoise pour les enfants allergiques, c'est aussi section pause et on est toujours dans le thème de l'Halloween. Jusqu'à 8% des jeunes enfants québécois ont des allergies alimentaires. Pour leur permettre de vivre une Halloween en toute sécurité, Allergie Québec demande aux gens qui ouvrent leurs portes le 31 octobre de prévoir des gâteries non comestibles à distribuer. Autocollants, crayons ou balles aux motifs « halloweenesques » entre guillemets sont offerts dans les magasins à bas prix. Ces cadeaux plairont même aux enfants sans allergie qui reçoivent souvent trop de bonbons pour pouvoir humainement tous les manger. Pour signaler sa participation, la population est invitée à peindre une citrouille en turquoise. Il est aussi possible d'imprimer une affiche sur le site d'Allergie Québec. Astérix et la transitalique. Astérix en manque de potions, c'est la critique du nouvel album Astérix. C'est une critique signée Jean Siag dans la presse. C'est aujourd'hui que le tandem formé du scénariste Jean-Yves Ferry et du dessinateur Didier Conrad sort son troisième Astérix, repris des mains d'Albert Uderzo en 2013. Un album plus familial que le précédent, avec quelques perles et clins d'œil sur l'actualité, mais en fin de compte desservi par un scénario hyper prévisible, écrit Jean Siag. Tout laissait croire que Jean-Yves Ferry et Didier Conrad avaient trouvé leur air d'aller. Après un premier album Astérix chez les Pictes, dont plus personne aujourd'hui ne se souvient, le duo a frappé fort avec le Papyrus de César qui abordait avec un humour mordant les thèmes des médias et des réseaux sociaux. Avec ce troisième opus, malgré un début d'album prometteur, on fait quelques pas en arrière. Le tandem Ferry-Conrad a tout de même respecté le principe d'alternance en situant l'action des nouvelles aventures d'Astérix à l'étranger, en l'occurrence en Italie. La première planche donne le ton. Un Italien brise une des roues de son char dans un nid de poule. Furieux, il accuse un sénateur, Lactus Bifidus, de financer ses orgies avec les fonds publics destinés à l'entretien des routes. Pour démontrer la qualité des voies romaines, le sénateur sur la sellette organise une course de chars. Une idée saluée par César qui suggère que la course soit tout de même remportée par un Romain. Comment ne pas penser à la course de Formule E dans une ville prise en otage par les cons oranges? Jean-Yves Ferry s'est-il inspiré de notre réalité montréalaise? Toujours est-il qu'Astérix et Obélix décident de participer à cette course couverte par une meute de scribes. Ici, les journalistes en prennent pour leur grade. Vénétèses, Étrusques, Ombriens, Oscaises, Goths, Belges, Normands et Gaulois, entre autres, s'affrontent donc dans cette course en cinq étapes qui traverse l'Italie du Nord au Sud, toile de fond de cette nouvelle aventure qui manquera vite de gaz. Quant au dessin, nous sommes dans l'univers graphique des créateurs d'origine, malgré des planches parfois visuellement surchargées. Les clins d'œil à la construction de Venise, à l'éruption entre parenthèses avortée du Vésuve ou aux personnages zéro gluten et bêta-carotène qui sont payés par César pour truquer la course sont appréciables. Tout comme la présence de la Mona Lisa qui se fait faire le portrait ou la prémonition d'Obélix qui devine l'origine de la pizza. Leur galette serait meilleure s'ils ajoutaient une petite sauce, lance-t-il. Hormis ces très bons flashs et quelques jeux de mots qui font sourire, le scénario comporte bien peu de surprises et le dénouement est tristement prévisible. Quant aux quelques rares rebondissements qui surviennent dans le récit de cette Olympiade, déjà vu entre parenthèses, dont le désistement de Coronavirus, coureur romain censé remporter la course grâce aux nombreuses manœuvres illégales financées par César, rappelant les tricheries des Jeux olympiques par exemple, il manque de subtilité et tombe la plupart du temps à plat. Ce qui soulève l'épineuse question de la suite de cette série culte. Jean-Yves Ferry et Didier Conrad qui ont réussi à gagner la confiance d'Albert Uderzo, qui fête ses 90 ans, et Dani Goscinny, fille du créateur René Goscinny, disparue il y a 40 ans, devrait-il demeurer à la tête de cette franchise? Ou est-ce que la série devrait être confiée d'année en année à des BDistes invités pour des one-shots? Les familles d'Uderzo et Goscinny voudront sans doute attendre de voir si les ventes seront au rendez-vous, ce qu'on peut déjà prévoir si on se fie aux ventes des deux premiers albums écoulés à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Reste à voir les réactions des lecteurs et amateurs, nombreux et exigeants, de la série. Alors, c'était Jean Siag qui faisait une critique du nouvel album d'Astérix, Astérix et la Transitalique. Vous écoutez Les Voix de service quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous pour la suite de l'émission. Actualité internationale, le président américain Donald Trump était empêtré mercredi dans une nouvelle polémique liée à ses propos lors d'un appel à la veuve d'un soldat mort au combat. Il avait déjà été montré du doigt pour ne pas avoir appelé plus tôt les proches de ces quatre Américains tombés le 4 octobre dans une embuscade d'un groupe djihadiste au Niger. Le sergent La David T. Johnson, âgé de 25 ans, faisait partie de cette patrouille. Alors qu'elle était en route pour accueillir son cercueil, son épouse, Miesia Johnson, enceinte de leur troisième enfant, a reçu un appel de Donald Trump dans la voiture, selon Frederica Wilson, élue démocrate de Floride. Je l'ai entendu dire, je suis sûr qu'il savait ce pourquoi il s'engageait, mais ça reste douloureux, a affirmé la parlementaire sur CNN. Cet homme a un cœur de pierre et ne ressent de pitié ou de sympathie pour personne. C'est une veuve en deuil, s'est-elle indignée. L'élu démocrate a complètement inventé ce que j'ai dit à l'épouse d'un soldat mort au combat, et j'ai la preuve. Triste, point d'exclamation, a rétorqué Donald Trump sur Twitter. L'armée irakienne a repris en 48 heures quasiment toutes les zones dont les combattants kurdes s'étaient emparés progressivement depuis 2003, notamment dans la province pétrolière de Kirkuk. Face à ce cuisant revers et à la profonde crise politique qui s'ensuit, le Comité d'organisation des élections présidentielles et législatives a reporté ses scrutins prévus initialement le 1er novembre dans le Kurdistan. Plus de trois semaines après le « oui » massif à leur référendum d'indépendance controversé, ce retrait aux allures de défaite a encore exacerbé les tensions entre les deux grands partis traditionnels de la région autonome kurde. Preuve que le pouvoir central veut pousser rapidement son avantage, le ministre irakien du pétrole, Jabar al-Louabi, a demandé mercredi à la compagnie British Petroleum, BP, de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour développer les infrastructures pétrolières de Kirkuk. La ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, a confié hier avoir fait l'expérience du harcèlement sexuel au plus haut niveau politique et rejoint sur sa page Facebook la campagne mot-clic MeToo qui incite les victimes à témoigner. Sans confirmer un incident survenu lors d'une réunion avec des dirigeants européens et rapporté par un journaliste dans ses mémoires, Margot Wallström a affirmé avoir été victime de harcèlement dans l'exercice de ses fonctions. En 2014, elle avait raconté dans un livre de souvenirs du journaliste suédois Jan Sherman que l'un de ses voisins l'avait délibérément tripoté lors d'un dîner de dirigeants européens. « Tout d'un coup, j'ai senti une main sur ma cuisse. Mon voisin de table s'était mis à me tripoter. C'était complètement irréel », avait-elle relaté. Informé, l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, a estimé que c'était tout à fait inacceptable. J'ignore s'il en a parlé à la personne que j'avais à table. J'étais choquée par ce qui s'est passé, se souvenait-elle. Le premier ministre portugais a dû se résoudre hier à remplacer sa ministre de l'Intérieur, cédant au flot de critiques dénonçant son incapacité à lutter efficacement contre les incendies de forêt qui ont fait plus de 100 morts en 4 mois. « Après cet été, rien ne peut rester comme avant », a déclaré le chef du gouvernement socialiste, António Costa, en reconnaissant que des erreurs graves avaient été commises par les services de secours placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. En juin, le Portugal avait été frappé par l'incendie de forêt le plus tragique de son histoire, qui avait fait 64 morts et plus de 250 blessés, à Petrogão Grande, à 100 km au nord de Lisbonne. Le nombre de victimes des incendies de ce week-end est monté à 42 morts après qu'un blessé eût succombé à ses brûlures, selon le dernier bilan établi hier par la protection civile. L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a demandé hier 98 millions de dollars pour lutter contre une nouvelle souche de la jaunisse fusarienne, une maladie qui frappe les bananes. Cette maladie risque de décimer l'ensemble de la production mondiale de bananes, ce qui entraînerait d'importantes pertes commerciales et aurait des répercussions sur les moyens d'existence de 400 millions de personnes qui dépendent du fruit le plus exporté au monde pour se nourrir ou en tirer leurs revenus, met en garde l'agence onusienne dont le siège est à Rome. Sans une intervention coordonnée, les scientifiques estiment que la maladie pourrait affecter jusqu'à 1,6 million d'hectares de bananes d'ici 2040, selon ce communiqué. Au revoir, Gord Downey. Le décès du chanteur de Tragically Hip suscite des réactions unanimes partout au pays. Décédé mardi soir à l'âge de 53 ans, Gord Downey était un ambassadeur de la culture canadienne et tout au long de la journée, les réactions se sont multipliées sur la toile, des réactions provenant de toutes les sphères et de tous les horizons. Le chanteur canadien atteint par un cancer du cerveau incurable faisait l'unanimité. Alors, ce qu'ils ont dit, on peut lire ça dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, section Arts et spectacles. C'est une journée triste pour le Canada et pour la musique canadienne. Repose en paix, Gord, et merci, Rush. On a déjà tourné ensemble il y a très longtemps. Il a même chanté avec moi quelques fois. J'ai encore ses souvenirs avec moi, dit Daniel Lanoy. Tu étais le plus grand, Gord Downey. Repose en paix, ex-batteur d'Our Lady Peace, Jeremy Taggart. Tes paroles et ta musique vont briller. Paix, Tom Cochrane. Peu de Canadiens ont touché ce pays comme Gord Downey. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Doug Gilmour, ex-joueur de la Ligue nationale de hockey. Il y a aussi Julie Payette, terriblement attristée par le décès de Gord Downey. Il nous a éblouis par ses paroles, sa passion et sa profondeur jusqu'à la toute fin. Donc, a écrit la gouverneure générale du Canada. Et Justin Trudeau, il peignait des paysages avec ses mots, mettant en valeur les lieux, les personnages historiques et les légendes du Canada. Sa musique a enrichi l'identité et la culture du Canada. Il nous manquera énormément. Alors, au revoir, Gord Downey. Trois ovations soutenues des fans qui la couvrent de fleurs, un concert sans faille et une chanteuse à fleur de peau, Isabelle Boulay a triomphé une fois de plus hier au mythique Olympia de Paris, alors qu'elle y présentait en première européenne, en vérité, son tout nouveau spectacle. Douce, émotive, généreuse et touchante, on ne cesse de dire de nouveaux spectacles, du nouveau spectacle en, de nouveaux spectacles en nouveaux spectacles qu'Isabelle Boulay est au sommet de son art. Elle nous surprend encore à monter toujours plus haut, creusant encore son talent d'interprète, bien digne de ceux qui l'ont précédée sur les planches légendaires de l'Olympia. C'est Sandra Godin, dans le Journal de Montréal, qui écrit cela.
Que mes draps se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne. Bien au-delà des mots, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai.
Trois nouvelles projections pour Cité Mémoire à Montréal. Le parcours audiovisuel Cité Mémoire se prolonge jusqu'au centre-ville avec l'ajout de trois projections audiovisuelles à l'intérieur de l'hôtel Fairmont, Lorraine-Élisabeth. Alors qu'un des tableaux évoque de grandes périodes de l'histoire de la métropole, l'autre, intitulé « Le Bed-In », aborde le séjour de John Lennon et de Yoko Ono dans une suite de l'hôtel en 1969. Une projection interactive dans l'allée souterraine reliant la place Ville-Marie au mythique hôtel symbolise quant à elle une rivière qui s'anime au passage des visiteurs afin d'évoquer l'évolution de la métropole à travers le temps. Par ailleurs, une expérience de réalité augmentée intitulée Lorraine-Élisabeth a été ajoutée à l'application mobile Montréal en histoire qui permet de réaliser un tour guidé virtuel du parcours de Cité Mémoire. Ainsi, il est désormais possible d'assister en version accélérée à la construction de l'hôtel montréalais en consultant cette application mobile qui a été téléchargée plus de 150 000 fois jusqu'à maintenant. La carrière internationale de Une 54 s'est poursuivie à Hambourg la semaine dernière et le film a obtenu là-bas une distinction. Dans ce festival allemand où le cinéma québécois est souvent mis en valeur, le film de Jan Englund a décroché le prix Michel. Il s'agit d'une récompense remise par un jury formé d'enfants dont le mandat est de choisir le meilleur film parmi ceux leur étant destinés, un peu sur le même modèle que la section Génération du Festival de Berlin. Ce prix est accompagné d'une bourse de 5 000 euros, environ 7 500 $ canadiens. Par ailleurs, signalons aussi une distinction attribuée à Vancouver et à Au pire, on se mamie... Alors, je reprends la phrase. Par ailleurs, signalons aussi une distinction attribuée à Vancouver à Et au pire, on se mariera. Léa Poole a en effet obtenu l'Artistic Merit Award décerné à chaque année par l'association Women in Film and Television Vancouver à la réalisatrice d'un film canadien sélectionné au Festival de Vancouver. Le tournage de House of Cards perturbé. Une fusillade ayant fait 3 morts à Edgewood, municipalité sise à proximité de Baltimore, a forcé la fermeture d'un lieu de tournage de la série House of Cards hier. Selon ce que rapportent les médias, un homme identifié comme Radhi Labid Prince s'est présenté juste avant 9 heures dans un commerce où il a déjà travaillé et a tué 3 personnes en plus de faire 2 blessés. Comme il a pris la fuite, la police a bouclé un large secteur incluant le plateau de tournage de la populaire série de Netflix. La production tourne actuellement la 6e saison de cette série. Diversité artistique Montréal, DAM, mènera une consultation sur la discrimination et le racisme systémique dans les milieux artistiques et culturels à la demande de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les consultations qui incluront vraisemblablement des témoignages de préjudice ainsi que l'audition de citoyens se tiendra du 3 au... Il manque une date, novembre. À partir du 3, donc, novembre, l'appel à participer est lancé et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 octobre sur diversitéartistique.org/fr/activité au pluriel/consultation. La tournée des journaux régionaux, séduction ou harcèlement, point d'interrogation, Yann Bussière dans Le Soleil d'aujourd'hui. Pour Michel Doré, professeur titulaire de l'École de services sociaux de l'Université Laval, la ligne entre séduction et harcèlement sexuel est loin d'être difficile à tracer. On devra apporter des précisions à savoir où s'arrête la séduction, où la drague et où commence le harcèlement. Ça nous est tous arrivé de crouser quelqu'un qui ne veut pas de nous. C'est simple, dans ce temps-là, on arrête. Ce n'est pas difficile à comprendre que non, c'est non, a lancé M. Doré en entrevue au Soleil dans la foulée de la médiatisation de scandales sexuels impliquant des vedettes de la télé ou du cinéma. Je ne veux pas dire que crouser, c'est quelque chose de mauvais, mais il y a de l'éducation à faire. La séduction, c'est quelque chose qui est agréable pour les deux. Quand ça cesse d'être agréable, on le voit tout de suite et il faut aussi arrêter tout de suite. Ce n'est pas difficile, c'est facile à faire. Il suffit de faire preuve d'empathie, d'être à l'écoute de l'autre, poursuit le professeur. Le chercheur indique également que cette vision des choses doit s'appliquer peu importe le sexe, le genre ou l'orientation sexuelle. Justement, j'ai fait une recherche pour le secrétariat à la condition féminine sur la violence et les agressions sexuelles chez les personnes de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et trans, LGBT. Certains croient que parce qu'une personne est gay, trans ou bisexuelle, qu'elle aime davantage le sexe. Mais on a tous des goûts et des dégoûts. Et quand tu ne veux pas, poursuit-il. M. Doré estime que les cas d'agression et de harcèlement sont peut-être un reliquat indésirable de la révolution sexuelle. Des gens croient que le sexe est toujours le fun. Ce n'est pas vrai. Et des gens ont beau dire que c'est des blagues, la personne qui le subit avec beaucoup de violence. Michel Doré croit qu'il reste encore beaucoup d'éducation à faire concernant les agressions et le harcèlement. Il faudra faire de la prévention et surtout s'adresser aux harceleurs. On parle du retour de l'éducation sexuelle dans les écoles pour les jeunes, mais on devrait vraisemblablement le faire aussi pour les adultes. Jean-Pierre Giguère, consultant en ressources humaines et enquêteur spécialisé dans le domaine du harcèlement sexuel en milieu de travail, insiste lui aussi sur le non qui doit toujours vouloir dire non. Le harcèlement peut partir de propos à connotation sexuelle. Où est la ligne entre la drague et le harcèlement? Tu as le droit de t'essayer, de proposer, mais si tu te fais dire non, tu ne dois pas continuer. Dans la drague, il y a un émetteur et un récepteur. Quand on drague et que la personne n'est pas réceptive, il faut comprendre vite et ça doit cesser, explique-t-il, ajoutant que lancer des insultes ou faire des représailles quand quelqu'un refuse nos avances peut aussi faire partie du harcèlement. La ligne est mince entre un simple manque de savoir-vivre et le harcèlement. Tout est une question de contexte. Le harcèlement, ce sont des paroles, des gestes, des comportements répétés et non désirés. Quand il y a un lien d'autorité entre les personnes, ça ajoute à la situation, précise-t-il. Quand quelqu'un te tasse dans un coin près de la photocopieuse, il n'y a pas besoin d'avoir une récidive pour que ce soit du harcèlement. Même chose si on touche les organes génitaux de quelqu'un. Par contre, si quelqu'un met la main sur le bras ou la cuisse de quelqu'un d'autre, c'est un manque de civilité. Mais ça devient du harcèlement si la personne recommence ou continue, après s'être fait dire d'arrêter, conclut M. Giguère. Dans le Nouvelliste, le Cirque du Soleil rendra hommage au colloque. Après avoir exploré les répertoires de Beau Dommage de Robert Charlebois et de Luc Plamondon, le Cirque du Soleil fera revivre celui des colloques pour la quatrième saison de sa série Hommage à l'Amphithéâtre Cogeco du 18 juillet au 18 août 2018. La Corporation des événements de Trois-Rivières en a fait l'annonce mercredi. On est très heureux de présenter l'univers des colocs. C'était une préoccupation pour nous et les gens du Cirque du Soleil d'offrir quelque chose de différent. Les trois premiers spectacles ont présenté des univers différents, avec des lignes directrices très différentes. C'est important pour nous de continuer dans cette optique-là, commente Steve Dubé, le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières qui gère l'amphithéâtre. Thank you. Dans le quotidien, Louis Potvin, floué par des vendeurs itinérants. Des propriétaires de maisons de Saint-Félicien ont été floués par la compagnie Optimum, qui a effectué des travaux d'isolation qui ne sont pas nécessaires en utilisant la vente sous pression. Je me trouve un peu niaiseuse de m'avoir fait prendre, mais ils arrivent tellement avec une belle chanson que tu les crois et tu fais faire les travaux car ils ne te donnent pas le temps de réfléchir, témoigne une dame de Saint-Félicien qui ne voulait pas être identifiée. Le 12 septembre, un homme s'est présenté à sa résidence en disant qu'il était mandaté par l'Office de la protection du consommateur pour évaluer la qualité d'isolation de l'entretoit. Il m'a montré une photo en me disant qu'il y avait des champignons et que des travaux urgents sont à faire. Je l'ai cru, car mon voisin avait remarqué que de la glace se formait sur mon toit et que j'avais probablement un problème d'isolation. Ils m'ont dit que ça coûtait 9 000 $ plus taxes et qu'ils pouvaient me financer à 2,2. Le lendemain, ils sont venus faire les travaux, le camion n'était pas lettré, et là, ils m'ont dit que le financement était de 24, ce qui changeait pas mal le montant à payer, raconte-t-elle. La dame a signé les papiers, mais a ensuite eu des remords. Elle s'est informée auprès de sa belle-fille, qui est juriste. Elle a immédiatement fait casser le contrat. La dame a demandé une contre-expertise d'une entreprise de Saint-Félicien qui a indiqué que les travaux faits ne convenaient pas et ne valaient que 800. Depuis, elle n'a pas eu de nouvelles de l'entreprise. Le pire, c'est que d'autres personnes se sont fait prendre et ont payé 10 000 $ pour les travaux, s'insurge-t-elle. Le propriétaire d'isolation Uréthane Saint-Félicien Jérôme Doucet confirme qu'au moins 5 personnes ont été piégées par Optimum. L'Office de la protection du consommateur est au fait des manœuvres de ces fraudeurs. Deux entreprises font affaire sous le nom d'Optimum et sont liées à Michel Bougie et à Frank Leith. Cette année, 2 plaintes ont été enregistrées et 26 au cours des 2 dernières années. Les personnes qui ont reçu la visite d'un commerçant qui leur a proposé des travaux de décontamination sont priées de communiquer avec l'OPC qui les renseignera sur leurs droits et pourra au besoin noter leurs plaintes. Voilà, ça complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Quant à moi, je vous dis à tout de suite si vous nous écoutez en direct, puisque j'anime les Paractualités.